De retour à notre émission, on discute avec Jean Côté, biologiste. On va parler du homard, évidemment, ce crustacé qu'on va commencer à pêcher bientôt. En savoir un peu plus, justement, sur ce dernier, son habitat, la façon dont il se nourrit. Un peu plus de détails, si on veut, autour de lui. Bonjour.
Oui, bonjour, Richard.
Ben, c'est la saison qui s'amène et, justement, on voulait parler un peu du homard qu'on capture. Parlez-moi un peu, de ce homard qu'on a, est-ce qu'il est particulier par rapport à d'autres régions, d'autres espèces aussi?
Ben, écoute, ce qu'il y a de particulier, le homard de la Gaspésie, puis c'est même vrai pour le homard du Québec en général, c'est qu'il est pêché sur des beaux fonds, des fonds habituellement rocheux, où on retrouve une multitude de sources de nourriture qui lui confèrent son petit goût particulier. Puis en plus, en Gaspésie, on est la première flotte qui commence la saison de pêche. Et là, on le capture dans le meilleur, si tu veux. On est loin de la mue de l'année dernière. Il y a eu le temps de se remplir, d'être rempli de chair. Excellente, d'avoir un bon goût. Donc, c'est vraiment ce qui nous distingue des autres régions, des fois où on peut le pêcher plus près de la mue. Donc là, il a déjà commencé à perdre du goût, à être moins plein. Puis des fois, il vient de régions où c'est des fonds vaseux, on va dire, ça a un goût différent. Donc oui, on est parmi les meilleurs.
Parlons de son habitat. Un homard, ça se nourrit de quoi? Ça habite bon. Où?
Écoute, l'homard, tout le monde le sait, ça marche sur le fond. Hein? C'est un décapode, c'est un crustacé avec des pattes. Il marche sur le fond. Il se nourrit de ce qu'il retrouve sur le fond. Mais il y a un mythe, il y a une croyance qui dit que c'est un charognard. C'est pas vrai. Le homard, là, c'est un prédateur. Il aime bien capturer ses proies et les prendre vivantes et les manger. Donc, il va se nourrir. Sa proie de préférence, c'est le crabe commun. Ici, souvent, des petits crabes.
Ouais.
Oui. Plus le homard est gros, ben pour lui, un petit crabe, c'est de plus en plus gros. Il va manger parfois des petits crustacés ou des bivalves, des moules, par exemple, se ramasser sur le fond. Il va même grignoter des morceaux d'algues ou toutes sortes de choses. Donc, plus il y a de sources de nourriture, plus il va l'exploiter. Et puis, à ce moment-là, oui, il va quand même prendre des déchets qui sont sur le fond, des poissons morts, il va y aller, mais c'est pas sa nourriture de prédilection.
Puis pour se nourrir, il se sert de ses pinces pour attraper ses captures. Là.
Oui,
c'est assez
ça
fort,
sert
ça.
Beaucoup. Ben écoute, hein, j'ai dit, il y a 10 pattes, il y a les grosses pinces qu'on nous, on connaît. Il y en a une broyeuse très grosse et puis il y en a une coupante qu'on voit plus affilée, plus acérée. Mais il se sert beaucoup de toutes les petites pattes, surtout celles d'en avant, pour amener la nourriture à sa bouche. En dessous de son corps, sa bouche est là en avant. Et là, c'est les petites pattes. Il va défaire avec ses grosses pinces, il va tenir sa proie, la couper. Puis les petites pattes lui permettent d'amener...
Et ces pinces-là, on se pose souvent la question, est-ce que ça a vraiment de la force, la grosse? Mettez-vous pas le doigt là. Mais...
Non, faut pas se mettre le doigt là. Je le conseille pas. Un petit homard d'une livre, une livre et quart, bon, ça pince déjà beaucoup. Mais plus il est gros, ça pourrait vous sectionner un doigt. Là. La broyeuse est très, très forte.
Comment on fait pour déterminer l'âge d'un homard? Parce que nous, on capture, on voit ça des une livre et demie, une livre et trois quarts, deux livres, mais...
C'est, à l'œil comme ça, c'est toujours assez difficile de dire quel âge a le homard, parce qu'il faut comprendre que dans la première année, il peut muer plusieurs fois, 15 à 20 fois dans sa première année de vie. Après ça, il mue à peu près à chaque année ou aux 2 ans. Mais habituellement, un homard qui pèse une livre et quart, le plus petit que nous, on va capturer ici en Gaspésie, bien, ce homard-là, on parle de minimum 6 ans, mais c'est plus 7 à 8 ans qu'il a déjà. Donc, quand on a un beau homard d'une livre et demie, 2 livres, c'est 8 à 10 ans et plus parce qu'on c'est une augmentation de poids d'à peu près 10 à 15 quand il fait une mue à chaque année.
Et l'âge? Le plus loin où va se rendre un homard?
Écoute, les plus gros homards, on les a évalués entre 50 et jusqu'à 100 ans, puis ils pesaient plus de 20 kilos, là, 20-22 kilos. C'est des homards, c'est exceptionnel, mais le homard a une très grande longévité, puis ça serait pas rare qu'il se rende à une quarantaine d'années dans les profondeurs ou d'autres régions.
Quels sont les prédateurs du homard, justement, à part lui-même? On parle
c'est
souvent
surtout
du bar...
lui-même. Je veux dire, pour le gros homard, là, on va dire c'est surtout l'humain. Hein? C'est okay. Surtout la pêche qui en enlève des millions et des dizaines de millions de l'eau, ça, et des centaines, sont, et plus encore à l'échelle du Golfe. Mais les tout petits, effectivement, les petits sont victimes à la fois de cannibalisme, sont victimes des... Ça peut être des crabes, ça peut être d'autres animaux comme ça. Le bar rayé, ça nous inquiète. On est content que le ministère fasse une étude, mais on attend les résultats, on ne les a pas. Mais on a vu des photos, puis on a parlé à des pêcheurs. On sait qu'ils avaient du bar. Ils avaient constaté qu'il y avait du homard et même du crabe commun dans les estomacs de certains bars rayés. Donc oui, il y a des poissons, effectivement, qui peuvent le manger. Puis oui, quand il est tout petit, c'est une petite bestiole.
On parlait des petits homards, parlons de reproduction. Tout à l'heure, vous avez fait allusion justement à la femelle qui va pondre ses œufs à la fin de la pêche, donc en juillet-août. Oui. Mais comment ça, est-ce qu'on se reproduit annuellement? Comment ça fonctionne?
En fait, la reproduction est plutôt aux 2 ans. Il faut comprendre qu'une femelle qui a atteint une taille suffisante pour être mature va se reproduire juste après une mue. Donc, souvent, à la fin de l'été, elle va se chercher un mâle, un partenaire. Et là, tu sais, on a parlé tout à l'heure des antennes de détection chimique. Donc, elle va trouver un mâle qui va dégager des phéromones, qui va dégager vraiment les odeurs qui l'attirent, puis elle va aller dans sa tanière. Et là, juste peu après sa mue, donc là, elle est vraiment toute molle, ils vont s'accoupler. Puis ça arrive quelque part à la fin d'un été, appelons-le l'été zéro. Et là, cette femelle-là, ensuite, va quitter la tanière et va se promener, et ainsi de suite, va continuer à refaire sa carapace, grossir, et elle va incuber ses œufs à l'intérieur de son corps pendant 10 à 12 mois. Donc, on se rappelle souvent, quand on voit à la poissonnerie, les gens demandent des femelles parce qu'ils veulent le corail, ils veulent les œufs qu'on retrouve. Donc, c'est une femelle qui s'est accouplée à la fin de l'été précédent, et maintenant, elle porte les œufs à l'intérieur. Et quand va arriver la fin de cet été-là, cet automne-là, celui-là, ça fait presque un an, elle va déposer ces œufs-là à l'extérieur de son corps, sous la queue. Ils vont être collés sous la queue. Et là, nous, on parle d'une femelle œuvée, ou des fois, dans les maritimes, vous allez entendre le terme des femelles grainées. Okay. Donc, c'est des petites graines noires, des petits œufs noirs qui sont toutes collés sous la queue de la femelle.
Elle garde ça longtemps?
Et là, elle va les garder encore pour une période d'une dizaine de mois encore. Donc, c'est un cycle de 2 ans. Donc, cette femelle-là, l'été suivant, le deuxième, c'est la femelle levée que les pêcheurs doivent obligatoirement remettre à l'eau pour protéger la ressource. Donc, elle va se reproduire et elle va pondre. En fait, ses œufs sont sous sa queue. Ils font juste se développer. Et quand ils sont matures, les œufs vont éclore. Et là, les petites larves vont être libérées dans l'eau.
Combien par femelle?
Écoute, une petite femelle, on parle de peut-être 5 000 œufs. Mais les grosses, grosses femelles, on peut parler jusqu'à 100 000 œufs.
Taux de survie?
Le taux de survie, c'est là que c'est plus difficile. On libère beaucoup d'œufs, mais... les larves qui sont, on dit, dans la colonne d'eau, donc ils vont être dans l'eau pendant plusieurs semaines et dépendant de la température de l'eau, ça va être de 4-6 semaines jusqu'à 3 mois, certaines régions où l'eau est très froide. Bien, on parle d'une sur 1000 qui va survivre jusqu'au moment où elle va se déposer au fond de l'eau. Et donc, après ça, celle qui va se rendre jusqu'à taille commerciale, c'est encore moins que ça.
Bon, alors c'est pour ça que de votre côté, au niveau du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, vous avez décidé de lancer un projet avec une écloserie. Parlez-moi un peu.
Oui, c'est ça. En fait, l'idée ici derrière pour les pêcheurs, faut pas penser qu'on veut remplacer Mère Nature, surtout quand la ressource est abondante comme c'est là. Mais l'objectif, c'était de compenser 3 à 5 % de ce qu'on prélève du nombre d'homards qu'on sort de l'eau. Puis ça représentait, quand on a commencé le projet en 2010, 100 000 petits homards qu'on voulait produire en écloserie et ensemencer. Puis aujourd'hui, avec les captures records qu'on a, bien là, on parle de 170 000 petits homards qu'on veut mettre à l'eau. Donc nous, on s'est associé à l'époque avec le MAPAC. Aujourd'hui, on travaille chez Mérinov. Et ce qu'on fait, c'est que durant la saison, on ramasse... Il y a des pêcheurs qui, pour moi, vont ramasser des femelles œuvées. Mm-hmm. Ils ont un permis qui leur permet de les garder. Moi, je les amène à l'écloserie et je vais récolter les petites larves que ces femelles-là vont libérer et je vais les élever dans des bassins pour une douzaine de jours environ. Puis, après ces 12 jours-là, j'ai vraiment un petit homard copie conforme d'un gros, mais qui mesure à peu près une douzaine de millimètres, 12 à 14 millimètres, c'est vraiment pas gros. Ouais. Et ceux-là, on utilise un système de pouponnière qui s'appelle l'AquaHive, qui est conçu pour les homards. Ça a été conçu en Écosse, au Royaume-Uni. Et puis nous, on utilise ça et ça nous permet de faire grandir les homards un peu plus dans un espace restreint, puis de les ensemencer en mer ensuite, tout en les protégeant, parce que c'est drôle à dire, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, le homard est cannibale, et tout au long du processus d'élevage, il faut qu'on les protège d'eux-mêmes, parce qu'ils vont se manger entre eux. Et le système de pouponnière qu'on utilise, bien, c'est comme un système de, c'est comme des condos. Ils ont chacun leur petit alvéole dans des plateaux, ils ne peuvent pas toucher à leurs voisins, on peut tous les nourrir en même temps, puis quand vient le temps de les ensemencer, on met un... On recouvre le plateau puis d'un papier biodégradable. Je remets ça à ces plateaux-là à des pêcheurs qui vont aller les envoyer sur le fond de la même façon qu'ils vont mettre, par exemple, leur casier. Mais au lieu d'être un casier à tous les X mètres, c'est un plateau. Ces plateaux-là tombent au fond. Après quelques jours, les tourmards ont frayé leur chemin au travers du papier biodégradable et s'en vont sur le fond.
Ben, vous les gardez combien de temps? Là?
En tout, là, c'est un processus qui dure entre 3 et 4 semaines maximum. Nous, on a pris... On a une
donc, vous les récoltez à juillet?
Moi, les femelles, là, je vais les avoir dès la première semaine de pêche. Et puis, je vais leur faire croire qu'ils sont dans le sud tout de suite. Moi, je vais augmenter la température plus vite que dans le milieu naturel. Et j'ai des premières petites larves qui vont éclore quelque part à la fin du mois de mai. Et là, c'est un cycle, comme je dis, de 3 à 4 semaines d'élevage. Et là, je fais ça tout l'été tant que j'ai des femelles œuvées disponibles. Habituellement, on termine les ensemencements au mois d'août. Et puis, tu vois, depuis 2010, on a réussi à mettre plus de 330 000 petits homards à l'eau comme ça. Puis cette année, évidemment, on s'est dit qu'il faut qu'on augmente la capacité de production. Donc, on a investi pour doubler la quantité d'homards qu'on va être capable de mettre à l'eau.
Cette année, donc, vous allez en mettre à l'eau?
Bien, notre objectif, c'est vraiment... 160. Écoute, c'est 170 000 pour l'instant. Ça serait l'objectif. L'année dernière, on en a mis 80 000. Donc, on espère pouvoir en faire 120 000, 140 000.
2010, c'était les premières
c'était
larves.
C'était les premières larves.
Donc, elles sont matures ou adultes et qu'on peut en capturer.
Absolument.
À partir de quand?
Écoute... On est en 2017. Moi, je calcule qu'après 7 ans, c'est sûr que cette année, les pêcheurs de la région de Port-Daniel-Gascon, c'est là qu'on ensemençait cette année-là, bien, eux, ils ont des bonnes chances de pêcher des homards qui vont provenir de ceux qu'on avait ensemencés. Mais
je
peux pas le savoir. Une fois qu'ils sont dans l'eau, il n'y a rien qui ressemble à un homard comme un autre homard. Qui viennent de l'écloserie ou qui viennent du recrutement naturel, ils sont tout à fait identiques.
Jean Côté, c'est intéressant ce que vous nous avez mentionné à notre entrevue aujourd'hui. En terminant, puis c'est un jeu de mots, mais quand même, la question qui tue.
Oui.
Le pauvre homard qui termine dans une marmite, la cuisson. Il y a toutes sortes d'hypothèses qui circulent, qu'on l'entend gémir, qu'il doit souffrir.
Ben,
quoi la vérité?
Ça, c'est encore des croyances, encore un mythe. D'abord, le homard, il faut comprendre, il n'y a pas d'organe vocal. Il ne peut pas parler, il ne peut pas crier, il ne peut pas dire un mot. Donc, quand on entend des bruits, des sifflements, tout ça, c'est la vapeur qui sort de la carapace au moment de la cuisson. Puis de deux, le homard, c'est un invertébré qui n'a pas un cerveau très développé ni un système nerveux très développé. Et puis, il ne ressent pas la douleur comme nous. Bien sûr que c'est un animal vivant, il est conscient qu'il se passe quelque chose, qui va peut-être mourir, mais il n'y a pas la réflexion ni le sentiment de douleur que nous, on peut avoir. Puis finalement, si vraiment ça vous torture beaucoup, vous pouvez chercher sur le web, il y a toutes sortes de trucs, paraît-il, pour endormir son mort avant de le mettre dans la marmite.
Entre autres?
Il y en a un qui le met sur la tête, la queue comme ça, penchée dans le lavabo, puis attendre qu'il arrête de bouger, puis paraît qu'il dort ensuite.
Oui, on le met la tête debout.
Oui, c'est ça,
là.
La tête en bas, la queue en l'air, puis on attend, puis là, la queue baisse, ça, mais moi, je dis qu'il va gigoter quand il va être dans marmite quand même.
Jean Côté, biologiste, merci de votre passage chez nous.
Bien, ça m'a fait plaisir, Richard.
Et bonne saison d'écloserie.
Ah, ça va être une bonne saison d'écloserie, puis une bonne saison en mer, je pense.
Merci bien.